Bonjour tout le monde, Spectaculaire commence mercredi 3 mai 2013, 2023, n'importe quoi, je suis 10 ans en arrière. Mais c'est assez amusant, je n'ai pas du tout fait exprès et néanmoins je pense que cette date marque le 10e anniversaire de l'émission Spectaculaire. Émission 296 aujourd'hui, ça aurait peut-être pu être un autre chiffre s'il y a 2-3 ans il n'y avait pas eu un moment qui a marqué une petite pause dans l'actualité. Donc voilà, 10 ans que Spectaculaire sévit sur les ondes de Radio Canu. Canu, c'est très bien. Christophe Rollin, je suis seul au micro, mais sans Francis. La chronique n'aura pas lieu, elle aura bien lieu la semaine prochaine. L'égoïsme se partage, chronique presque littéraire. Je suis néanmoins en fort bonne compagnie. Céline Leroux ainsi que Nicolas Boudier sont avec moi. Tous les deux sont au TNG ainsi qu'à la compagnie Haut et Court. Non, déjà je confonds un peu les choses. Eh bien écoutez, ils vous diront qui est la directrice adjointe et qui est le metteur en espace. Vous le saurez dans quelques instants, ils sont là tous les deux pour parler de la germination. D'autres mondes possibles, épisode 1. Cela a commencé hier, mardi 2 mai. Cela se termine mercredi 10 mai prochain. C'est aux ateliers Presqu'île. C'est dans le cadre de la saison Théâtre Nouvelle Génération CDN, Centre Dramatique National. Vous allez tout savoir. Et également peut-être une question aussi sur la politique. C'est un peu compliqué. Écoutons Un Monde Nouveau. D'ailleurs, c'est peut-être lié à de la politique. Un Monde Nouveau de Feu Chatterton est tout à fait en rapport avec cette germination d'autres mondes possibles. Un Monde Nouveau de extrait de l'album, c'était l'album Palais d'Argile. C'était pas le premier de Feu Chatterton, mais c'était il y a déjà quelques temps. Voilà, je bredouille. Lançons Feu Chatterton et nous continuons. Vous nous écoutez sur radiocanu.org et si c'est sur internet, c'est très bien. Et si c'est à Lyon, c'est sur le 102.2 de la bande FM.
Sur le pays, très chaudement, dans un bain de foule dévot, à moitié épaillé. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les spritz, c'était à n'y comprendre rien. Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit. Serveur central. Sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central.
un monde nouveau. On en rêvait tous, un feu Chatterton. Pour introduire cette émission, quelques réglages peut-être. Oui, je crois que ça a l'air d'être meilleur. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Bonjour Céline.
Bonjour.
Nicolas Boudier, Céline Leroux. Vous êtes ici pour parler de la germination, d'autres mondes possibles, épisode 1. C'est par Joris Mathieu et Nicolas Boudier, en compagnie de Haut et Court. C'est au Théâtre Nouvelle Génération, le TNG. Alors, en travaux actuellement, c'est plutôt, il faut se déplacer, enfin du moins c'est même peut-être plus près si on vient du 3e arrondissement, mais c'est plus loin si on vient du 5e. Il faut aller aux ateliers Presqu'île, sur la rue du Petit David, la rue Petit David au numéro 5, juste au début rue Mercière à peu près, c'est proche de Bellecour et de la place des Jacobins. C'est donc la germination dont vous allez nous parler, mais peut-être en début d'émission, le cahier des charges depuis donc 10 ans le réclame. Un portrait des invités, Céline Leroux, directrice adjointe au TNG, Nicolas Boudier, metteur en espace. Pourriez-vous retracer un peu votre parcours? Ou alors, nous le disions hors antenne il y a quelques instants de cela, Céline Leroux, un propos peut-être liminaire sur une décision la semaine dernière qui n'est pas très élégante, Nicolas, non plus, c'est ça?
Oui, nous avons appris lors de la conférence de presse de la région Auvergne-Rhône-Alpes, par la vice-présidente à la culture, que la région retirait l'intégralité de la subvention régionale au TNG, ce qui représente 149 000 euros pour l'année 2023. Mais nous avions déjà subi une première coupe en 2022. Donc la disparition de la subvention représente 175 000 euros au total.
Et la manière par laquelle cela a été annoncé, Nicolas, c'est pas très correct. Vous me disiez, Céline, c'est une tribune de Joris Mathieu,
oui,
directeur du TNG.
Oui, c'est suite à une tribune que Joris Mathieu a publiée par le biais du Syndéac, le syndicat représentatif des entreprises artistiques et culturelles, où il a fait part d'une forme de ce qu'on nomme une politique de la terreur appliquée par Laurent Wauquiez et son équipe pour le milieu culturel, en face du milieu culturel et artistique, puisque ça fait maintenant depuis plusieurs années où on appelle de nos voeux à pouvoir entrer en discussion avec l'exécutif pour pouvoir discuter de la politique culturelle régionale. Et nous n'avons jamais véritablement réussi à obtenir de rendez-vous. Il n'y a eu aucune concertation avec le milieu culturel, aucune concertation avec notre équipe au TNG ou avec d'autres équipes, structures en région. Et que, c'est une décision brutale, unilatérale, qui met à mal toute la politique de développement culturel que l'on mène depuis des années au TNG, de soutien à la création, bien sûr, pour les artistes, puisqu'on est un centre dramatique national, donc on est une maison de création pour les artistes qui viennent y créer leur spectacle. Mais nous menons aussi de très nombreuses actions d'éducation artistique et culturelle sur tout le territoire, de la région notamment. Et c'est finalement tout cela qui est remis en cause. Une telle coupure dans notre budget, ça représente à peu près un tiers de notre programmation. Et ça menace aussi les emplois, tout simplement. Voilà, donc c'est une situation très difficile. On attend de savoir aussi ce qu'il en sera pour d'autres structures, d'autres équipes artistiques potentielles, parce que on n'a pas eu encore l'information pour l'ensemble, en tout cas, du territoire régional.
Je vous remercie de cette clarification, mais alors pour lancer une émission, c'est plombant. D'autant plus que la germination, on en parlera dans un deuxième temps, le propos n'est peut-être pas formidable, n'est peut-être pas non plus très, très optimiste. Et en fait, peut-être que si, quand même. Peut-être
en tout cas,
si.
D'autres mondes possibles.
Oui, voilà.
Pas celui-là.
Exactement. un portrait, voilà, puisque j'ai moins d'entrain qu'en début d'émission pour vous le demander. Nicolas Boudier, Céline Leroux, j'ai quelques éléments vous concernant, Céline, là, comme cela. J'ai le TNB sous les yeux, la Biennale de la Danse également, je vois, coordinatrice artistique, Micromonde, TNG, et puis Domino aussi, je vois. Dans cet ordre, plus ou moins chronologique, c'est comme ça que oui, s'est passée votre carrière?
Absolument, j'ai démarré mon parcours professionnel au Théâtre National de Bretagne, où j'ai travaillé en tant que relations publiques, et puis j'ai fait également de la production.
Êtes-vous native de la région? Êtes-vous bretonne?
Absolument, comme mon nom l'indique.
Ah, j'ignorais à l'ironie, c'est ça?
Si. Oui, il y a beaucoup de Leroux en Bretagne.
Ah, je pensais que c'était...
Avec une petite coquetterie, mon nom s'écrit en deux mots. Mais je suis bretonne d'origine, donc j'ai commencé à travailler là-bas. Et puis ensuite, je suis venue m'installer à Lyon et j'ai travaillé pour la Biennale de la Danse en tant que coordinatrice artistique. Et puis j'ai fondé le festival Micromonde, qui est dédié aux arts immersifs, en 2011. Et puis suite à cette expérience, Joris Mathieu m'a proposé de le rejoindre dans l'équipe du TNG pour travailler à ses côtés.
Et y était-il déjà, ou alors d'abord il passe aux ateliers pour
oui,
commencer?
Oui, il avait été nommé aux ateliers, c'était en 2013, pour la saison 2013-2014. Et ensuite, il a souhaité candidater à la direction du TNG qui se libérait. Et
le TJA, voilà. Déjà, l'appellation était... Néodine Tronal, elle avait déjà changé.
Le Théâtre des Jeunes Années, le TJA avait déjà muté, en tout cas pour son appellation, puisque c'est en 2005 que Néodine Tronal avait rebaptisé le TJA Théâtre Nouvelle Génération. Et on a souhaité garder cet intitulé parce qu'il nous correspond toujours et parce qu'aussi nous consacrons une très grande part de notre programmation à l'enfance et à la jeunesse. Nous ne faisons pas exclusivement du jeune public, mais nous en faisons beaucoup.
Art immersif, est-ce que cela pourrait faire un pont entre vous, Céline Leroux, et vous, Nicolas Boudier, metteur en espace? Il faut une définition de ce terme-là, art immersif.
Effectivement, c'est un peu sombre, même si au départ, effectivement, je fais de la lumière, je suis vraiment éclairagiste, et après j'ai développé, je dirais, un travail qui était beaucoup lié à l'espace et qui a muté vers la scénographie. Dans la scénographie, j'ai intégré beaucoup de choses qui sont à la fois du son, de la lumière, de la vidéo, des dispositifs complexes comme le dernier, donc en réalité augmentée.
Je n'ai pas du tout dit pour la germination, je ne l'ai même pas présenté comme cela, alors qu'il y a un dispositif assez important, des lunettes,
oui,
qui sont remises à chaque,
on y reviendra sûrement,
chaque spectateur. Oh, bien sûr.
Mais du coup, voilà, c'est toutes ces activités un peu connexes, mais qui sont aussi, qui ont une part assez définie dans la création. J'ai décidé à un moment de les regrouper sous le nom de metteur en espace, voilà. Et c'est aussi, je dirais, dans la collaboration avec Joris Mathieu, où lui est du coup plutôt une appellation de metteur en scène, et notre, je dirais, collaboration depuis maintenant 25 ans a toujours été à l'endroit à la fois de l'écriture scénique et de l'écriture littéraire, et notre façon de travailler a fait qu'à un moment, voilà, on s'est un peu mis coude à coude. Et les créations aussi naissent, voilà, de cette hybridation entre le texte et l'espace. Et moi, au départ, voilà, j'ai une au départ éclairagiste, comme ça fait à peu près 25 ans que je travaille dans le spectacle vivant. Si je comptabilise, je pense que c'est à peu près 200 créations avec Joris Mathieu dès le départ, mais aussi avec la danse, le théâtre, un peu la musique. Et depuis maintenant, je dirais, voilà, une bonne dizaine d'années quand même. Je me suis pas mal recentré effectivement sur le travail de la compagnie Ouécourt et avec voilà le développement des créations aussi un peu plus en interne à l'intérieur du TNG pour pouvoir aller plus loin et développer des dispositifs plus complexes comme plein de créations qu'on a pu faire avec Joris où effectivement l'innovation, la technologie sont aussi des ingrédients du travail artistique et dernièrement effectivement la réalité augmentée, donc puisque Germination est un spectacle de théâtre avant tout, avec des comédiens, une scénographie, de la lumière, du son, mais où les spectateurs sont équipés, donc 80 spectateurs, d'une lunette de réalité augmentée, je dis bien donc AR et non pas réalité virtuelle, puisque la réalité virtuelle est vraiment un univers fermé, où en fait on est déconnecté du réel, alors que la réalité augmentée est réellement du coup un dispositif qui nous permet d'être en lien avec le plateau, de voir le plateau, mais de pouvoir aussi également intégrer des images en 3D à l'intérieur de la réalité.
Et est-ce que c'est bien cela, une définition qu'on pourrait donner de l'immersion, de ces arts immersifs, c'est-à-dire être dans un spectacle? Parce que j'avoue, Céline Leroux, j'ai voulu préparer différentes... j'ai voulu faire une préparation pour cette émission, mais j'ai un peu peiné pour ce qui était de ce festival Micromonde. J'aurais pu me renseigner sur les éditions précédentes, 17, 19, 21, je crois aussi qu'il y a eu une édition, mais je ne l'ai pas assez fait. Ce festival est sur le mois de novembre, c'est une biennale, et donc est-il également question... d'immersion ou pas, ou moins?
Oui, absolument. C'est l'identité même du festival. Micromonde, c'est le premier festival des arts immersifs, dédié aux arts immersifs en France.
Et comment les définir alors, César?
À base de... La question de l'immersion, aujourd'hui, elle est très très présente. C'est un concept qui s'est extrêmement répandu et comme l'a expliqué Nicolas, très lié quand même à la création numérique, à la réalité virtuelle, réalité mixte ou réalité augmentée. Mais au départ, l'immersion, c'est pas forcément lié à ces outils technologiques. C'est surtout un déplacement du spectateur. C'est-à-dire que, au lieu de s'asseoir dans un fauteuil face à une scène, on propose au spectateur de rentrer complètement à l'intérieur d'un dispositif scénique pour y vivre une expérience. Et donc, on échappe à ce rapport frontal, on est au cœur d'un décor, au cœur d'une scénographie qui peut être artisanale ou très développée en contemporanéité, on peut dire. Et c'est là, en fait, qu'on propose... la réception en fait d'une œuvre de façon intime qui est adressée à l'individu en tant que personne avec une dimension sensorielle très forte, c'est-à-dire que on a tous les sens qui peuvent être sollicités, que ce soit le goût, l'odeur, la dimension tactile aussi des choses, et donc on se concentre davantage sur la réception sensorielle de l'œuvre.
C'est marrant, vous n'avez même pas nommé la vue et l'ouïe, parce que c'est...
Parce que la vue et l'ouïe, voilà, évidemment, font partie des cinq sens.
Je me doute bien, mais les autres sont davantage mis en avant. C'est vrai que le goût dans un spectacle, c'est assez... ça me semble complètement neuf. Il faudra que je me renseigne pour le mois de novembre. Peut-être reviendriez-vous si vous êtes partante, mais on l'évoquait en début d'émission, cette baisse de subvention peut impacter également ce festival Micromonde ou c'est autre chose, enfin du moins c'est
bien évidemment, ouais. Bon, là on est encore un petit peu sous le coup de cette annonce, de cette annonce. Maintenant il va falloir évidemment étudier quel impact cela va avoir sur le projet artistique général du TNG, et le festival Micromonde est intégré à ce projet artistique, donc ça malmène évidemment la programmation du festival, mais plus généralement toute la programmation du TNG, oui.
Peut-être, vous ne l'évoquez pas, et le spectacle peut aussi, mais peut-être qu'une certaine forme de colère pourrait s'entendre de cette germination que j'ai pu voir hier, également de cette décision qui semble assez inique, injuste, qui a été prise. Il me semble que, Nicolas, nous en parlions il y a quelques instants de cela, nous évoquions The Attacker, c'est peut-être le morceau de October Liber, c'est peut-être le plus violent, donc peut-être que ça pourrait être dans une forme de colère, et puis après, puisque la musique, il faudra qu'on dise un mot de la musique qui est faite par... Siegfried Marc,
Nicolas Thévenet.
Et alors, Siegfried Marc, lui, est
Siegfried Marc, la personne qui s'occupe de la vidéo chez nous, et là, il a du coup, dû ouvrir en fait son champ de compétences à la réalité augmentée avec une autre personne qui s'appelle Antoine Valène, qui est ingénieur en réalité virtuelle. Et ils ont travaillé tous les deux ensemble pour développer le dispositif, et avec moi, sur l'ensemble de la réalité. augmenter.
Donc je me trompais pour ce qui est de la musique, parce que la musique, elle est très douce pendant le spectacle. Elle est vraiment très agréable.
Plutôt très douce.
Très présente. Donc nous parlons bien de La Germination, D'autres Mondes Possibles, épisode 1, de Joris Mathieu et Nicolas Boudier, ici présents en compagnie de Haut et Court. Ça a commencé hier, le mardi 2 mai, il y a encore plusieurs dates jusqu'au mercredi 10 mai de la semaine prochaine. C'est à 20h aux ateliers Presqu'île, 5 rue Petit David. Donc commençons avec ce morceau plein de colère, et puis ensuite une présentation par nos deux invités de cet épisode 1. Il y aura un épisode 2 à venir, un épisode 3. Enfin, c'est comme ça que c'est prévu, et ce serait très bien que ça puisse avoir lieu. Durée, on l'évoquera, et les tarifs, je crois, sont doux aussi, comme l'ensemble. The Attacker, et nous continuons sur la germination. Ça se termine de manière un peu abrupte. Nous écoutions de The Attacker. Non, 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 c'est pas ça. Non, le groupe, c'est Oktoberlieber. C'est Oktoberlieber et c'est le titre The Attacker. C'est bien, année un peu 80, vous me disiez,
totalement.
C'est ça, Nicolas Boudier. Oui. Metteur en espace pour cette, la germination. Céline Leroux, notre invitée aussi, pour, vous êtes directrice adjointe au TNG. Cette pièce, oui, si, c'est bien du théâtre, mais ce spectacle, ou je ne sais pas comment nommer, je crois que sur le blog j'ai parlé d'une expérience, elle a lieu au TNG. Alors, site, d'ailleurs il faudrait peut-être un mot sur ce site, Céline Leroux, et ce spectacle, cette expérience a lieu aux ateliers Presqu'île, 5 rue Petit David. Ça a commencé mardi 2 mai, c'est donc tout frais aujourd'hui mercredi 3, et il y a encore une semaine de représentation, ce mercredi 3, jeudi 4, dans les 5, samedi 6, relâche les dimanches 7 et lundi 8, mardi 9, mercredi 10, c'est à 20h tous les soirs, 20h30 mercredi prochain, durée 1h30, et donc la raison de cette salle est peut-être double, Nicolas et Céline, c'est que
le
TNG est en travaux.
Oui, les ateliers Presqu'île font partie en fait du TNG, du Théâtre Nouvelle Génération, le Centre Dramatique National de Lyon, depuis 2015, depuis l'arrivée en fait de Joris à la direction du TNG, puisqu'il dirigeait le théâtre Les Ateliers depuis un an, et le projet qu'il a présenté de candidature prévoyait la fusion de ces deux théâtres, ce qui était quelque chose de très important pour l'évolution de l'histoire de la structure. C'est que le TNG ne dispose que, Avez ne dispose que de deux salles, une salle de 400 places à peu près et une petite salle de 90, et comme nous sommes un lieu de création, il n'y a pas de salle de répétition. Donc quand les compagnies étaient en répétition pour créer de nouveaux spectacles, on ne pouvait pas diffuser des spectacles en même temps dans la salle. Donc les ateliers nous ont vraiment permis de développer notre mission de création auprès des compagnies, et puis on présente également, on diffuse des spectacles aux ateliers. Mais depuis l'année dernière, cette année, et ce sera encore le cas jusqu'à l'automne, et bien l'automne 2024, si tout va bien, on l'espère, on croise les doigts, nous sommes en saison hors les murs, donc les ateliers Presqu'île sont un peu notre quartier général, et puis nous programmons des spectacles un petit peu partout dans la ville.
Parce que la salle principale de Devez est pour travaux.
Parce que la salle principale, la scène particulièrement du TNG à Vez, est en travaux. Elle va être entièrement rénovée car elle était plus du tout adaptée à la création d'aujourd'hui, à la création contemporaine. Donc ce sera un très beau plateau par la suite, et normalement on devrait réouvrir en janvier 2025, mais c'est pas encore véritablement décidé.
C'est vrai qu'aujourd'hui c'est un théâtre sans toit, sans mur, et le mur du fond du TNG, il faut le rappeler, parce qu'il y a beaucoup de gens à Lyon qui, je pense, qui se sont confrontés à ce mur. C'était le fond du théâtre était vraiment en biais, et du coup dans le projet quand même de réaménagement du théâtre, on va avoir une scène un peu plus carrée, et du coup avec beaucoup plus de profondeur, d'ouverture, de hauteur. Voilà, une ouverture vers la création quand même qui va être largement élargie.
De beaux partenaires pour hors les murs, je vois le chapiteau Parc de Paris, le pôle Pixel, le musée Gadagne, MAM musée Gadagne, il y a également le pôle Neuf Saint-Rambert, c'est très bien. Je vous évoquais aussi Nicolas Boudier parce que peut-être que la salle des ateliers est assez adaptée à cette germination. On va commencer, auditeur, auditrice, à parler de ce spectacle très, très spécial, puisque la jauge étant réduite, de toute façon, l'équipement, ces lunettes à réalité augmentée, vous n'en disposez pas, je suppose, de mains et mains exemplaires. C'est,
non, et c'est vrai que c'est déjà un défi d'arriver à faire ce spectacle avec 80 spectateurs. On peut dire que c'est une première mondiale.
Avec jauge complète.
L'expérience, voilà, réalité augmentée dans un rapport théâtral. Ma connaissance n'a jamais été faite dans cette dimension-là. Il y a quelques expériences pour 10, 20 spectateurs, mais 80 spectateurs, c'est une vraie première. Donc on a quand même un peu essuyé les plâtres au début. C'est un développement où on est vraiment parti de zéro. Il a fallu à la fois écrire ce spectacle artistiquement, mais aussi l'inventer au niveau du dispositif et rendre possible aussi cette relation entre le virtuel et le réel. Et c'est vrai que les ateliers, alors c'est un choix de départ. Je dirais, à chaque fois qu'on crée un spectacle, on décide de son format. Donc les ateliers, on savait qu'on allait créer là-bas. Donc déjà, la contrainte, je dirais, pour moi aussi, au niveau de l'espace, de la scénographie, fait partie quand même du point de départ. Avec quand même, effectivement, un rapport assez spéciale due à la réalité augmentée, où on est un petit peu mis en distance de la scène pour des raisons aussi de vision. La vue est forcément très convoquée, mais on a besoin quand même d'être un petit peu loin du dispositif pour le voir pleinement. Et il y avait au départ dans la conception du spectacle, cette idée que cette zone entre la scène et le spectateur est une zone vivante. Et possiblement, c'est là où on fabrique aussi le spectacle, entre le spectateur et les comédiens sur scène, en tout cas l'espace proposé, l'espace poétique. C'est aussi la rencontre de ce que nous fabriquons en tant que spectateurs et la scène qui va en fait intérieurement travailler. Et la germination, c'est un peu ça. C'est aussi un espace, une serre agricole où on vient jardiner. On vient jardiner, on vient cultiver notre jardin extérieur, mais peut-être pour développer notre jardin intérieur au niveau d'une nouvelle pensée, faire germer des nouvelles idées.
Céline, on est en train d'entrer dans ce spectacle. Plus précisément, on a enfin évoqué la serre. La scène est une serre. Il me semble qu'il manque un peu ces trois prénoms. Et puis ensuite, je vous laisserai parler de Nado, Sam et Slavoj. Ce sont donc les trois comédiens sur scène. Comment parler de ce qui se passe, de ce qui leur arrive? Y a-t-il un contexte? Comment vous avez moins participé, je crois, que Joris Mathieu et Nicolas Boudy à l'écriture, mais peut-être justement en regard extérieur, comment définir, comment présenter un peu cette pièce qui est un moment important de la saison? À un moment donné, ça aurait pu avoir lieu en février-mars, c'est ça, je crois, et puis ça a été décalé, donc la saison ne se termine pas encore, il reste des spectacles, il y a d'ailleurs une autre programmation, Fanny de Chaillet actuellement, mais ce moment est assez important, cette germination, donc Céline Leroux, directrice adjointe du TNG, comment présenter ce spectacle, cette expérience?
Alors, moi, je n'ai pas du tout participé à l'écriture de ce spectacle. Je ne suis pas artiste comme Joris et Nicolas. Moi, je suis directrice artistique, programmatrice. Donc, c'est un spectacle qui est totalement innovant. Puis je crois que Nicolas l'a très très bien expliqué. On est quand même même si le travail de Joris avec tout le collectif Haut et Court,
les comédiens, oui, notamment,
depuis des années travaille sur un théâtre d'images, un théâtre de l'illusion, un théâtre où se mêlent des images virtuelles, des images réelles, et on est dans une espèce de trouble en fait en tant que spectateur, parce qu'on ne sait pas très bien où est le vrai du faux. Dans ce spectacle-là, ce qui est particulièrement innovant, c'est qu'on explose le quatrième mur, c'est-à-dire que les images qui, au préalable, dans les dispositifs précédents de la compagnie, qui était inspiré en tout cas des Paper Ghost, qui est une scénographie qui date de la période élisabéthaine, si je ne me trompe pas.
Exactement.
Ah oui, alors on est en Angleterre au 16e, c'est ça, 15e même.
Non, oui, non, Shakespeare, 16e, ouais. Voilà, c'était déjà des techniques en fait d'illusion qui étaient expérimentées, mais on restait quand même dans le cadre de la scène. Et là, cette expérience-là, elle fait en sorte que les images virtuelles sortent littéralement de ce cadre et viennent jusqu'à nous, spectateurs. Donc il y a forcément un effet de fascination qui est extraordinaire, puisque ce sont des choses que nous n'avons jamais vues.
Ah, il y a une raie qui passe au tout début, quand le spectacle commence, une raie passe, on la voit arriver de loin. Moi, j'ai levé la tête, elle m'est passée dessus. Il y avait la queue de la raie qui était encore en train de passer, c'est assez stupéfiant. Mais on est beaucoup dans de la technique et c'est très important, cela est vrai, mais peut-être pour un petit peu de narration, de récit, quelle est cette histoire de cette germination épisode 1? On retrouvera Slavoj, Sam et Nado peut-être plus tard, mais dans cette première pièce, ils entrent dans cette scène, dans cette serre. En fait, on ne sait même pas d'où ils viennent, mais on comprend assez rapidement qu'ils sont trois et qu'ils incarnent trois idéologies différentes ou trois courants de pensée.
Trois courants
différentes.
Je dirais, ils débarquent un peu dans cette scène de manière, comme souvent une pièce de théâtre, on ne sait pas d'où ça arrive.
En attendant Godot,
cas, ça
ou n'importe.
Place, voilà, sur scène. On comprend quand même qu'il y a un rapport un peu entendu aussi avec le public. C'est vrai que le quatrième mur est tout de suite un petit peu ébranlé. On a eu effectivement la serre, l'arrêt qui nous est passé au-dessus de la tête juste avant. Et ils vont commencer, en fait, sans... enfin, sur j'irai commencer à discuter, à dialoguer, à tchatcher, je dirais presque, à bavarder. Et pendant une heure et demie, on va avoir un espèce de trois récits qui vont au début être, oui, plus quand même dans une conversation, et petit à petit se radicaliser. Et ces trois personnages, du coup, vont incarner une utopie, un courant, comme vous le disiez, qui serait le transhumanisme pour Sam, le cosmopolitisme pour Slaboy, et Nado, qui serait l'animalisme, un antispécisme, voilà, pour ce troisième personnage. Et chacun, à un moment, alors qu'ils sont là pour un vivre ensemble, pour faire une expérience, ce qu'on comprend au début du spectacle, qui, à un moment, voilà, ce qui est important quand même, c'est ça se passe sur plusieurs années, et en fait, on revient en arrière. C'est-à-dire, je ne sais même plus la première date, mais en gros, c'est
2019,
voilà, c'est avant quand même le grand bouleversement, on va l'appeler comme ça.
Mais qui est d'ailleurs évoqué, il voilà, est intégré.
Il est évoqué.
On l'appelle le premier confinement.
Exactement. Voilà, du coup, il y a une espèce de relecture, il y a une uchronie un petit peu quand même, voilà, dans le spectacle. On parle d'utopie, mais il y a quand même une uchronie. Et voilà, ils sont là en fait pour cultiver, pour essayer de rentrer un peu en autonomie et effectivement faire germer des idées. Et petit à petit, en discutant, un peu se radicaliser, ils vont nous proposer quand même chacun une utopie, en fait, comme ils la voient. C'est vrai qu'on, du coup, on bascule à ce moment-là dans le virtuel. C'est vrai que la réalité augmentée nous permettait aussi à un moment de faire disparaître complètement la scène et l'espace réel pour rentrer dans une projection de ce que pourrait être, même si on n'est pas dans une quelque chose de comment dire, de c'est pas narratif, mais en tout cas sur les images, on essaye d'ouvrir l'imaginaire, mais ces premières propositions sont assez lisses en fin de compte. On parlait un peu de propagande, c'est une espèce de pub, c'est une espèce de... Voilà, même si les personnages sont habités, en tout cas il y a un déclic qui se passe en eux, et ils vont venir nous proposer, et si on allait vers un autre monde possible, et chacun à leur manière, avec leur vision, avec leur croyance... Et mais sans réponse. Donc on va les traverser effectivement pendant cette heure et demie. Et après, je dirais à nous aussi de faire le chemin. Et c'est vrai que je pense qu'on adhère à chaque fois à des petites parties de chaque utopie. Mais qu'est-ce que ça construit aussi en nous en tant que spectateurs? Je crois que à la fin, souvent, il y a une attente de qu'on nous propose un autre monde possible. Mais ce monde possible, il est probablement à construire ensemble, et c'est aussi ça, je dirais, peut-être l'ouverture d'un nouveau chemin qui sera probablement l'épisode 2.
Le spectateur, les spectateurs, spectatrices sont mis à contribution avec des votes qui sont proposés. On peut donc, mais avec des questions. J'avoue, moi, avoir peiné, parce que les questions ne sont pas faciles.
Et, elles sont un peu troubles.
Et la réponse doit être oui ou non. Le point fermé, non. Le pouce levé, oui. Je crois qu'à un moment donné, j'ai voulu voter non, il me semble. Puis mon pouce s'est quand même dressé, ça a fait oui. Alors le contraire, j'ai voulu voter oui, puis le pouce s'est pas sorti. Donc le point
rabattu. Faire hyper gaffe à son pouce.
Il faut faire très attention au pouce. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, voilà, on parlait de technologie, mais à un moment donné, je crois que c'est Minal, la première voix qui intervient, ou c'est peut-être même Joris Mathieu qui le disait lorsqu'il prend la parole au début. Si jamais la technologie ne marche pas, on peut également suivre cela comme un spectacle simple, sans effet. Alors bien entendu, les effets, c'est pas tant à porte, les effets font partie du spectacle, mais c'est quand même une pièce que Joris Mathieu a écrite. Vous avez, vous, contribué davantage à une écriture mise en espace, c'est ça, une écriture,
oui.
Scénique. Et j'en parlais d'ailleurs avec Joris Mathieu hier, il me disait qu'en fait l'écriture n'est pas non plus, il y a des allers-retours qui se font.
Complètement, oui, c'est souvent... C'est d'abord une idée hein,
germe.
Qui apparaît, qui germe, mais qui est souvent aussi, je dirais, un fil qu'on tire de nos précédentes créations. Je dirais que cette création, elle arrive après 25 ans de travail commun. J'ai l'impression, effectivement, comme le disait Céline, sur les histoires aussi, pour moi, de dispositifs, de Paper Ghost, de théâtre virtuel, c'est une continuité. Je n'ai pas l'impression de refaire un nouveau spectacle, mais j'ai l'impression de continuer, en fait, le précédent. J'essaye de revenir à la question.
L'idée,
l'écriture, et ce qui est très important. Ah oui, voilà, c'est cette idée toujours de d'aller-retour effectivement entre l'écriture littéraire et les auteurs scéniques, et ce qui fait aussi l'identité de notre théâtre depuis maintenant là, de longues années, c'est du coup la technologie ou l'innovation qui à un moment va faire partie de notre dispositif demande à être aussi souvent réinterprétée et par le texte, par l'écriture. Que ça soit de l'adaptation de romans, parce qu'on a beaucoup travaillé aussi sur des textes qui étaient déjà écrits, ou quand Joris écrit, il y a des premières bribes qui arrivent, on commence à travailler le dispositif, on se re-questionne, le texte bouge, on refait évoluer le dispositif. C'est vrai que la germination, avant d'en arriver là, il y a eu 3, 4, 5 étapes très différentes, souvent dans un rapport aussi où le public est très impliqué. Mais on est passé vraiment par des étapes qui étaient assez lointaines les unes des autres. Mais cet aller-retour, voilà, fabrique, je dirais, le théâtre qu'on fait maintenant depuis quelques années, avec un re-questionnement où on n'est pas juste à adapter un texte, mais on re-questionne à chaque fois le dispositif, la place du public. C'est aussi là la connexion, je pense, avec Céline, et sur ce rapport à l'immersif. Et qu'est-ce que fait le spectateur dans une salle de spectacle?
Oui, Céline,
je me coupe d'un coup.
Non. Par ailleurs, Joris et la compagnie Haut et Court avaient déjà créé des spectacles immersifs. Je pense notamment au Bardo, qui est une espèce de grand labyrinthe, une espèce de cheminement de chambre en chambre. Et c'est une expérience absolument fascinante. Et du coup, c'était aussi entre nous un point commun artistique très fort de s'intéresser à ces formes-là qui sont globalement très peu diffusées en France, parce que ce sont des spectacles qui coûtent aussi cher à créer et à produire, mais pour un nombre de spectateurs réduit. Mais ce qu'on travaille là, c'est un autre type de relation, et c'est aussi le qualitatif. Voilà, c'est la réception extrêmement qualitative de l'œuvre.
C'est vrai que le Bardo, c'était du coup une traversée de 7 chambres qui durait à peu près à la fin quasiment une heure, la première traversée du Bardo, pour un spectateur toutes les 7 minutes. Donc avec, je sais plus, 8, je crois que c'était pour le monter, on mettait 15 jours à 30 personnes, et à la fin on avait, je sais plus, je ne ferai plus le compte du public, mais il y a une certaine utopie quand même aussi dans la création de ces formes. Et elles sont nécessaires parce que du coup elles se placent à un endroit où l'artistique, même si c'est des petites formes, n'a pas de limite.
Et moi je pense aussi que les formes immersives laissent un souvenir extrêmement fort aux spectateurs. Micromonde a maintenant des spectateurs fidèles depuis sa création en 2011, parce qu'ils viennent chercher quelque chose qu'ils ne trouvent pas ailleurs.
Et voyons, le cinéma 3D.
Non, le cinéma 3D, ça n'est pas ça non plus. Et le 4DX avec les fauteuils qui bougent, non plus.
Ça bouge à l'intérieur.
Ah oui, ça c'est plus fort, oui, effectivement. Oui, Céline Leroux, je vous ai interrompu, excusez-moi. Des spectateurs viennent rechercher quelque chose qu'ils n'ont pas ailleurs.
Oui,
pas dans le cinéma, dans la série, dans la lecture.
Qui est une expérience unique, et dont moi-même j'ai fait l'expérience quand j'ai découvert des formes immersives par des artistes. Ce sont des spectacles qui m'ont suivi dans le temps, dont je me suis vraiment rappelée. Donc voilà, j'avais envie de faire partager ça à d'autres.
C'est une précision importante. Peut-être, moi, c'en est une autre également, mais du même type. C'est qu'il y a un vrai propos, enfin, comment dire, il y a une vraie documentation. Une sorte de voix off, un propos, enfin, du moins, un homme intervient assez régulièrement. Il donne la date et différentes choses. Il termine avec une citation du jour. Les personnes citées sont de qualité. Il y a du Lao Tzu, il y a également Mahatma Gandhi, il y a encore Michael Jordan, il y a aussi et ce sont toujours Roosevelt.
La pensée positive du jour.
La pensée positive du jour, et c'est vraiment très intéressant. Il y a également Est-ce qu'on a le temps d'en dire un mot ? L'horloge de l'Apocalypse de 1947, la chose est expliquée par Slavoj, je crois, c'est
par
ça ?
Slavoj.
C'est lui qui définit ce groupe de chercheurs en 1947, qui ne sont pas non plus des professeurs tournesol, hein. Il y a des prix Nobel parmi eux.
13 prix Nobel, je crois. Voilà. L'horloge de l'Apocalypse, donc c'est l'idée de dire qu'on ramène la vie de l'humanité sur 24 heures.
Et donc là, on est tard. Là, il est minuit.
On est tard. Il reste, 100
secondes. Mais pas tout à fait minuit. Voilà.
En termes d'utilisation des ressources, hein, c'est ça que ça voulait dire. C'est-à-dire que à la sortie de la guerre, la Terre était à l'équilibre entre l'usage de ses ressources et l'humanité. Mais aujourd'hui, plus de 50 ans, enfin 70 ans plus tard, pratiquement. Eh bien, maintenant, la fin de l'humanité, ou en tout cas de l'existence de la Terre, pompée de l'ensemble de ses ressources, rapportée à une année, ferait qu'on s'arrêterait au mois de juillet.
C'est ça. Il y a les ressources et quand même la dangerosité des événements aussi internationaux. Et à l'époque, effectivement, la bombe atomique, à un moment dans le spectacle... Je crois que c'est Sam qui dit qu'effectivement, ou non, Nado, voilà, qui dit qu'au sortir de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, et en fait le désarmement aussi, et le retour en arrière sur le nucléaire, permet de regagner du temps de vie pour l'humanité. Et aujourd'hui, c'est vrai que on se rapproche de la situation actuelle, on perd pas mal de secondes.
Donc peut-être, c'est une transition comme ça que je trouve, il faut se battre, il faut combattre, et le titre des Cure est prêt, Fight. Voilà, il faut tenter une action, il faut faire quelque chose, et nous allons donc écouter un titre. Ce n'est pas encore la toute fin d'émission. Je vous propose, auditeurs, auditrices, Céline, Nicolas, je vous propose donc une petite pause musicale, et puis ensuite quelques annonces de spectacles, et puis il faudrait annoncer aussi d'autres spectacles qui vont se faire au TNG Atelier, il y a encore Transformé, Boum Boum Boum, une autre histoire du théâtre, enfin, il y a différentes choses à venir, et puis aussi peut-être Transition, on pourrait revenir sur de l'histoire passée. J'ai lu un texte très intéressant de Frédéric Sontag qui était programmé au mois de mars-avril, j'ai lu une pièce juste avant, que vous n'avez pas donné je crois, D'autres mondes, et je me demande si dans cette ADN du TNG il n'y aurait pas vraiment cette histoire de penser à d'autres mondes, là vraiment c'est évoqué avec Germination, d'autres mondes possibles, mais même sans que ce soit un titre de spectacle, n'est-ce pas un peu
une petite phrase du spectacle d'avant, c'était gagner ou perdre, mais toujours en démocratie.
Ah, c'est pas le même spectacle. On est en train de parler du même
c'est
spectacle.
Socrates.
Ça,
oui, ce sont
Socrates.
Oui, non, bien sûr. Mais ce sont.
D'autres mondes, c'est un autre spectacle.
C'est bien Frédéric Sontag aussi, ce Socrates.
Absolument.
Donc c'est intéressant. Un même auteur qui avec ces quelques pièces, rentre bien dans ce que le TNG propose. Auditeur, auditrice, quelques minutes encore. Écoutons Fight et puis des annonces et nous toucherons à la fin d'émission. je crois bien, c'est Robert Smith, c'est ça. Tant pis, on se permet.
Robert Smith.
Robert Smith. Et on terminera avec Les Smiths de Morrissey. Je me permets de l'interrompre pour nous laisser quelques minutes pour cette fin d'émission, quelques annonces, et puis nous reviendrons sur la programmation du TNJ qui ne s'arrête pas le mercredi 10 mai avec la dernière de la germination à 20h30. J'ai vu précision pour ce mercredi 10 mai. Donc, quelques annonces, parce que la fin de saison, ces derniers temps, j'ai eu tendance à dire que ça se calmait un peu. Et en fait, là, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de redémarrage avant les festivals de l'été qui vont arriver. Pour ce qui est de la musique, alors non, à l'Opéra de Lyon, c'est plutôt, ça va se calmer. Un dernier opéra est en cours actuellement. Le dernier, On purge bébé, n'aura pas lieu. Cet opéra est annulé et reporté à la saison prochaine. Katia Cabanova a commencé la semaine dernière. Il a lieu jusqu'au 13 mai. C'est une belle histoire, je m'y rendrai. Une histoire terrible, un opéra tiré d'un texte russe, chanté en tchèque, un opéra de Leo Janáček. L'auditorium, lui, a une grande activité pour cette fin de semaine actuellement. Demain, concert de l'orchestre, programme redonné jeudi, redonné samedi, avec le chef Nikolai Schepp-Snyder, pianiste Emmanuel Axe, pour notamment un quatrième concerto de Beethoven. Tout à l'heure, conférence de presse de la nouvelle saison. Il faudra voir si les concerts s'y retrouvent aussi. Et puis, orchestre invité, vendredi 5 mai, entre le jeudi 4 et le vendredi 6, orchestre baroque pour des œuvres de Monteverdi notamment. Et puis pour du théâtre, la germination a lieu actuellement. La cerisée est donnée au Célestin. C'est juste à côté quand on sort des ateliers. Donc voilà, faudra choisir cerisée ou Célestin. Mais la cerisée se termine cette fin de semaine. Donc il restera encore du temps pour aller voir la germination.
Cerisée et puis la serre de germination.
Ah oui, il y a des éléments. La cerisée est une pièce de Tchekhov. Il y a la fin de résidence de la résidence de François-Yen au TNP. Prochaine pièce le mardi 9 mai. Et puis ensuite, il y aura un autre instant, un autre moment de résidence sera un peu plus tard sur l'année, plutôt 24. Et puis, c'est le festival actuel du bar à spectacle, le Chalala. Rappelez-vous, nous les recevions il y a cela un mois, nous les recevions. Et là, actuellement, il n'y a pas de pièce. Enfin, comment dire, c'est un festival d'humour et de qualité du 4 au 27 mai, 95 montée de la Grande Côte. Et donc, ils nous l'avaient dit, ils reçoivent tous les spectacles qui leur ont plu, ici, ailleurs, de partout. C'est donc jusqu'au 27 mai, nous en reparlerons. Et puis sinon, il y a des festivals qui ont lieu, je termine là-dessus, les foires. C'est aux archives départementales. C'est assez improbable comme type d'exposition, et néanmoins c'est très intéressant. Je cherche à retrouver la petite brochure que j'ai égarée. Non, je l'ai sous les yeux. Oui, foire, villes et marchands, 1350-1600. Exposition du 30 mars au 30 juin. C'est aux archives départementales et métropolitaines. Il y a une exposition également au musée de l'imprimerie et la communication graphique. Rouge, vert, bleu, Véronèse, Stephen King, et puis encore un autre nom, c'est absolument terrible, je m'y intéresserai davantage, j'en reparlerai, et Obey est au
Musée Guimet,
exactement ça, merci Nicolas, jusqu'au 9 juillet, Obey, 1001 raisons de Disobey. Voilà, la fin de saison est assez riche, et il y aura aussi Changer d'air, c'est le festival dont nous parlerons la semaine prochaine, du 10 au 13 mai, festival sur l'Ouest lyonnais de la musique, avec plein de groupes, notamment un groupe Mauvais Garçon, je trouve ça bien. Quelques minutes pour parler un peu du TNJ, Céline Leroux, directrice adjointe, Nicolas Boudier, metteur en espace, boum 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 aux ateliers Presqu'île le samedi 13 mai, soirée exceptionnelle, c'est la semaine prochaine. Voilà, je vois ce nom. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses que vous souhaitez évoquer ou... Sontag, ça vous a plu, je crois, Nicolas Boudier, vous. Le ouais, Socrates, c'était bien.
Super histoire assez incroyable.
Et authentique, historique.
Totalement authentique.
Le grand frère de Rail, Socrates.
Ou en couleur, c'est vraiment extra.
Céline Leroux, oui.
Oui, donc très rapidement, au mois de mai, vous aurez la possibilité de découvrir le travail de Fanny de Chaillet, puisqu'on lui a proposé un focus, c'est-à-dire trois rendez-vous autour de sa démarche artistique, un concert avec une violoncelliste, Sarah Murcia et Fanny de Chaillet, pour reprendre, réécrire, détourner le célèbre album de Lou Reed, Transformer, le spectacle qui s'appelle donc Transformer.
Accent aigu,
ça c'est la semaine prochaine, mercredi, jeudi, vendredi. Le samedi, c'est Boum Boum Boum, c'est une espèce de cabaret best-of de Fanny de Chaillet qui nous présentera des scènes cultes de ses spectacles, très drôles, et ça se termine par une boum. Avec un DJ, trois DJ femmes au platine, une enfant tout d'abord, puis une adolescente et enfin Fanny de Chaillet. Et puis au mois de juin, grand rendez-vous à ne pas manquer dans le cadre et en partenariat avec le Festival des Utopistes, le spectacle Terce du très grand artiste Johan Le Guilherme, sous chapiteau au site de Paris. Et enfin, pour tous ceux qui aimeraient profiter d'une balade bucolique, vous pourrez découvrir la création de Julie Desprairies qui s'appelle « Les soucis s'évanouissent » dans la Dombe. Les 1er et 2 juillet, c'est pas mal pour finir la saison, les soucis s'évanouissent, non ?
Il faudra, oui, c'est formidable, les soucis s'évanouissent, en plus c'est très beau ça, les soucis s'évanouissent. Les lieux et horaires sont à préciser, il faut se rendre sur le site pour avoir des précisions, c'est ça Céline. Alors le site, je l'ai indiqué sur le blog, je peux vous en redonner l'adresse, je crois que c'est élémentaire, hein. C'est TNG, je l'ai plus sous les yeux,
tng.lyon.fr.
Ah ben voilà, c'est très bien. Nous n'avons pas tout dit. Donc auditeur, auditrice, il faudra vous rendre au TNG. J'avais annoncé les tarifs, je ne les ai pas donnés. Les tarifs, ils sont très doux. Hein. Vous me disiez, Nicolas, je ne les ai plus sous les yeux. Oui, c'est tarif plein, tarif jeune, et puis tarif moins de... C'est ça, oui, moins de 10 ans peut-être également. Non, quoi que c'est à partir de 15 ans, la germination tout de même.
Oui.
20 euros en plein tarif, 17 en tarif réduit, 10 euros pour les moins de 28 ans et 5 euros en tarif solidaire. Et il y a même des billets suspendus que vous pouvez aussi retrouver à la billetterie qui sont en fait issus d'une cagnotte que les spectateurs, à laquelle les spectateurs contribuent pour financer des billets de places de spectacle pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens. Tout le monde peut venir au théâtre.
Alors ça, c'est un formidable mot de la fin. Hélas, il faut encore introduire le dernier titre musical qui arrive. Il faut aussi que j'annonce les émissions à venir, mais c'est dommage. Il faudra presque redire ça dans quelques instants, Céline Leroux. Tout le monde peut venir au théâtre, malgré ce que certains peuvent penser, que éventuellement, dans des milieux, on pourrait, si on n'habite pas en ville, on pourrait vouloir ne pas aller au théâtre. Mais le théâtre est pour tout le monde. Je crois que c'est également le propos de François Hayen. Hein. Ça s'adresse à tout le monde, c'est pour tout le monde, ça concerne tout le monde. Et les programmes de Radio Canut concernent également tout le monde. À 14h02, on a un peu dépassé. Le blues des Canuts n'a pas l'air de commencer. Et pourtant, Pascal m'avait bien annoncé que ce serait le blues dans les réseaux. Internet, ou oui, je suppose les réseaux sociaux, le blues et la machine, c'est la grande programmation actuelle. À 17h, émission Mélomaniaque, je l'avais dit, en fait, elle a changé de nom, donc ce n'est pas ça. À 18h, en revanche, ce sera bien Mayday. 19h, Canu Info. 20h, Idée Noire, émission de l'UCL. À 21h, la bande-son de nos révoltes, ou bien par quinzaine, l'Est, l'Éden, je ne sais pas laquelle. En revanche, je sais bien qu'à 22h, ce sera Boulimix, émission Funkystery. Ça fait un peu boum, ça, on se croirait le samedi 13 mai. D'ici là, auditeurs, auditrices, restez à l'écoute des bandes continues. Nous, on va terminer avec Meat is Murder, un titre des Smiths, parce que je crois que c'est la programmation, enfin je ne crois pas, c'est la programmation que m'avait transmise Virginie, et il me semble que chaque morceau était lié plus ou moins à un des personnages, et donc si la viande, c'est un meurtre... On le sait, c'est le personnage de Nado. C'est bien ça, l'antispéciste.
Nado, qui est à l'envers, et Donna Haraway, pour voilà, la référence.
Ah, je ne l'avais pas. Merci beaucoup. Ursula Le Guin est également nommée dans le spectacle. Non, il faut y aller. La technologie, c'est formidable. Le propos est absolument stupéfiant.
C'est quand on est au théâtre qu'on se rend compte que c'est aussi fait pour nous.
On en reste là. Meat is Murder. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup, Céline Leroux. La semaine prochaine, Festival Changer d'air, ce sera de la musique et c'est très bien. Mais là, je vous remercie pour ces propos. Les soucis s'évanouissent. Le théâtre est pour tout le monde. Et vous, Nicolas, à l'instant, c'est quand on est au théâtre qu'on se rencontre.
Que c'est fait pour nous.
Portez-vous bien, auditeurs, auditrices. Merci à tout le monde. Au revoir. Bye bye.
Au revoir.
Death for no reason.